en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bien, Monsieur le Président, mes chers confrères, un sujet aussi vaste impose des choix difficiles pour concilier de la manière la plus concrète possible ce qui relève de la nécessaire information sur une question que vous ne connaissez peut-être pas tous très bien, ce qui relève de l'indispensable évaluation d'une justice dont l'existence même est parfois contestée et à laquelle il est souvent fait le reproche de manquer cruellement d'efficacité, ce qui relève enfin de l'évolution qu'elle pourrait connaître. Au titre de cette nécessaire information, je vous propose tout d'abord de faire très rapidement un peu d'histoire pour voir d'où vient la justice pénale internationale. Puis nous nous arrêterons un instant sur les juridictions qui sont aujourd'hui la concrétisation de cette grande idée, en rappelant brièvement quelle fut et quelle est l'activité de celle que l'on connaît le mieux. Nous nous interrogerons aussi très vite sur certaines des raisons ayant conduit à leur création, et au titre de l'indispensable évaluation à laquelle il est normal de se livrer, nous examinerons les principales critiques dont fait actuellement l'objet la justice pénale internationale, et plus particulièrement celle qu'il incarne actuellement au premier chef, c'est-à-dire la Cour pénale internationale, que j'appellerai la CPI. Ces critiques sont salutaires, mais il existe des réponses et des explications. Si le temps le permet, nous réfléchirons enfin sur certaines des évolutions que cette justice est susceptible de connaître, sur une possible extension de ses champs d'intervention, sur l'apparition de nouvelles formes de jugement des crimes de cette nature. Tout d'abord, une nécessaire information et quelques éléments d'histoire. Ce que l'on ose appeler l'ancêtre des procès pour crimes de guerre, car son caractère équitable est fort discuté, remonterait à 1474, date à laquelle Peter von Hagenbach, lieutenant de Charles le Téméraire, a été reconnu coupable de crimes contre les lois de Dieu et des hommes, en raison des exactions commises par ses soldats. Et il invoquait déjà avoir agi sur ordre. Mais arrêtons-nous sur des temps plus récents. C'est en 1872 à Genève qu'est, semble-t-il, avancée pour la première fois l'idée d'un tribunal international pour juger les crimes de guerre commis contre des blessés. À l'issue de la Première Guerre mondiale, il fut envisagé de juger Guillaume II pour, je cite, « offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités ». Fin de citation. Mais le tribunal composé d'un juge par pays allié ne se réunira pas, les Pays-Bas ayant refusé de livrer l'empereur déchu. Il faudra donc attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale. La conférence tenue à Londres à compter du 26 juin 1945 entre les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la France, et l'accord du 8 août 1945 signé par 21 États qui clôturera ces travaux, pour voir créer le premier tribunal pénal international, appelé à juger, je cite, « des criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu'ils soient accusés individuellement ou à titre de membres d'organisations ou de groupes ». Fin de citation. Le statut de ce tribunal annexé à l'accord de Londres prévoyait la poursuite de trois types de crimes, les crimes de guerre, les crimes contre la paix et les crimes contre l'humanité. La ville de Nuremberg fut choisie, car elle avait été la capitale idéologique du Troisième Reich, et peut-être aussi parce que son palais de justice et sa prison avaient miraculeusement résisté au bombardement. Furent alors poursuivis, vous le savez, des personnes physiques, mais aussi des organisations dont la SS, la SA, la Gestapo. Vous connaissez la suite, le verdict fut rendu il y a 70 ans, le 30 septembre 1946, 12 condamnations à mort, 7 peines d'emprisonnement, 3 acquittements. En janvier 1946 sera créé le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, plus communément appelé tribunal de Tokyo, pour juger 28 accusés, présumés responsables de crimes majeurs, les mêmes que ceux qu'avait définis l'accord de Londres. Dans les deux cas, Nuremberg et Tokyo, il s'agissait, il est vrai, et cela fut critiqué par certains, d'une justice dite de vainqueur. Par la suite, l'Assemblée générale des Nations unies, en particulier à l'occasion de l'adoption de la Convention de 1948 sur le génocide, a envisagé la création d'un organe judiciaire international permanent pour juger les crimes de cette nature. Ce projet ne put toutefois voir le jour, la guerre froide ayant fait obstacle à toute réelle tentative en ce sens. La chute du mur permit aux instances compétentes des Nations unies de se remettre au travail, mais ce sont les événements dramatiques survenus en ex-Yougoslavie et le génocide commis au Rwanda qui précipitèrent spectaculairement le mouvement au début des années 1990 avec la création des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Peu après, en juillet 1998, fut adopté à Rome, à l'issue d'une conférence diplomatique, le traité créant la Cour pénale internationale, première juridiction pénale internationale universelle et permanente. Une fois réunies les 60 ratifications exigées, cette Cour a vu le jour le 1er juillet 2002. Arrêtons-nous donc à présent un instant sur la manière dont s'est concrétisée la justice pénale internationale. La gravité des exactions commises en ex-Yougoslavie ont donc conduit le Conseil de sécurité des Nations unies à créer le 25 mai 1993 le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le TPY, chargé de poursuivre et de juger les personnes s'étant rendues coupables de violations graves du droit humanitaire à compter du 1er janvier 1991 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Il s'agissait donc d'un tribunal créé par les Nations unies, dont les juges étaient élus par l'Assemblée générale au vu d'une liste établie par le Conseil de sécurité. Dédié à une situation géopolitique donnée, l'ex-Yougoslavie, sa compétence n'était donc pas universelle. Conçu pour ne connaître que d'une période de temps déterminée, il était donc temporaire et il se trouve d'ailleurs précisément sur le point de fermer ses portes. Seule subsistera bientôt une formation de transition, singulièrement nommée le mécanisme, qui est appelé à examiner les jugements frappés d'appel et à traiter du contentieux de l'exécution des peines et d'éventuelles procédures de révision des condamnations prononcées. Sous réserve de quelques erreurs de ma part, le TPY en 23 ans a condamné 81 personnes et en a acquitté 19. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPR, a été créé le 8 novembre 1994, lui aussi par les Nations unies, pour juger les personnes responsables d'actes de génocide et d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations du droit international commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Ces juges étaient eux aussi élus par l'Assemblée générale des Nations unies et ils siégeaient à Arusha en Tanzanie. Le TPR, comme cela était initialement prévu, a aujourd'hui achevé ses travaux après avoir rendu 61 décisions de condamnation et 14 décisions d'acquittement. Il s'agissait là encore d'un tribunal temporaire et dédié à une situation géographique bien précise. En 2000, l'administration transitoire des Nations unies au Timor oriental a créé un tribunal mixte composé de juges locaux et de juges internationaux pour juger les crimes graves, meurtres, viols, tortures commis dans cet État en 1999. En juillet 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies, toujours, a créé le tribunal mixte pour la Sierra Leone, chargé de juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et certains crimes prévus par le droit sierra-léonais commis depuis le 30 novembre 1996. Composé de 8 juges internationaux, ce tribunal, à la différence du TPY ex-Yougoslavie et du TPR Rwanda, a siégé dans le pays où avaient été commis les faits poursuivis. Et il associait droit international et droit interne sierra-léonais. Cette mixité était, pensait-on, de nature à améliorer l'indispensable collaboration de l'État concerné. Notons toutefois que Charles Taylor, principal accusé, a, en ce qui le concerne, été jugé dans des locaux situés à La Haye. À la suite d'un accord passé en 2003 entre les représentants du gouvernement cambodgien et ceux des Nations unies, ont été créées les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens. composé de juges cambodgiens et de juges internationaux. Ce tribunal chargé de juger certains dirigeants des Khmer Rouges est toujours en activité. Le 30 mai 2007, le Conseil de sécurité a créé le tribunal spécial pour le Liban, chargé de juger à La Haye les auteurs de l'attentat commis contre le Premier ministre Rafik Hariri le 14 février 2005 à Beyrouth, ainsi qu'éventuellement les auteurs d'autres attentats connexes perpétués entre octobre 2004 et décembre 2005. Composé de juges libanais et de juges internationaux, et appliquant les dispositions du droit pénal libanais, il s'agit du premier tribunal international compétent à l'égard du crime de terrorisme en temps de paix. Et c'est précisément pour éviter la création de multiples tribunaux ad hoc, mixtes ou hybrides, qu'a été créée en 1998 la Cour pénale internationale, appelée à être, du moins en théorie, la seule juridiction pénale internationale universelle et permanente. À la différence des tribunaux dont je viens de parler, il ne s'agit donc pas d'une création des Nations Unies, elle est le résultat d'une conférence diplomatique réunie, rappelons-le, en juillet 1998 à Rome. 124 États avaient au 1er novembre 2016 signé et ratifié le traité de Rome. Trois viennent de dire qu'ils entendaient quitter la Cour, nous y reviendrons. Tout en reconnaissant le travail accompli par ces différentes juridictions, c'est à partir de la CPI, juridiction en devenir, de ce qu'elle est, de son activité, de l'image qu'elle donne, que j'articulerai à présent mes propos sur la justice pénale internationale. Composée de 18 juges élus, non pas par l'Assemblée des Nations Unies, mais par l'Assemblée des États ayant signé et ratifié le traité de Rome qui l'a créé, la Cour siège à La Haye, et est compétente pour juger les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis après le 1er juillet 2002. Elle n'est compétente à l'égard de ces crimes que si ceux-ci ont été commis sur le territoire d'un État parti au traité de Rome ou par un ressortissant d'un tel État, ou encore si un État fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour. Elle n'entend pas se substituer aux systèmes nationaux de justice pénale, mais les compléter. Elle n'exerce donc sa compétence et ne traite d'une affaire que si l'État concerné par de tels crimes n'engage pas de poursuite ou s'il proclame son intention de poursuivre, mais sans avoir en réalité la volonté ou la capacité de le faire. Elle fonctionne donc selon un principe de complémentarité, ce qui implique que les États adaptent leur législation et prennent toute leur part dans la recherche et la poursuite des personnes suspectées d'avoir commis de tels crimes. La Cour peut donc être saisie soit par un État parti au traité de Rome, ce fut le cas ces dernières années de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, de la Centrafrique et du Mali, soit par un État ayant déclaré accepter sa compétence, Côte d'Ivoire, Ukraine. Elle peut aussi l'être par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce fut le cas pour le Soudan et la Libye. Elle peut enfin l'être par son procureur, après un examen préliminaire engagé à son initiative et avec l'accord de la Chambre préliminaire de la Cour. C'est le cas du Kenya, de la Côte d'Ivoire, de la Géorgie et, semble-t-il, à court terme, de l'Afghanistan. Retenons également qu'aucune immunité lié par exemple à un statut de chef d'État, ne peut être invoqué devant la Cour. Ce parti pris statutaire symboliquement très fort constitue sans doute pourtant une des faiblesses de la Cour et peut expliquer l'attitude de certains États qui refusent de la rejoindre ou qui décident de la quitter. À ce jour, la Cour a statué définitivement dans 5 affaires et elle a prononcé 4 condamnations et un acquittement. Les 2 dernières condamnations concernaient Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, en raison des multiples viols commis en RCA par les militaires qu'il dirigeait, et Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, un djihadiste malien, pour les destructions de monuments historiques et les bâtiments consacrés à la religion, constitutifs de crimes de guerre, commis à Tombouctou. 23 affaires ont été ouvertes, 6 sont actuellement en cours d'audience à La Haye, 13 suspects objets de mandat d'arrêt sont en fuite ou n'ont pas été arrêtés. Par ailleurs, le procureur conduit actuellement des enquêtes en Ouganda, en République démocratique du Congo, en Centrafrique, au Darfour, en Libye, au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Géorgie. Et il procède à des examens préliminaires qui se situent en amont des enquêtes en Afghanistan, au Burundi, en Colombie, au Gabon, en Guinée, en Irak, au Nigeria, en Palestine et en Ukraine. Quelques mots à présent sur les raisons qui militent en faveur d'une justice pénale internationale. On peut en effet s'interroger sur la pertinence et même sur la légitimité d'une justice pénale internationale qui ne peut être qu'imparfaite, sélective et engendrée par la même critiques et frustrations, et pourtant elle existe. On peut aussi se demander pourquoi l'on a recours à d'interminables procès alors que différents États, tels l'Afrique du Sud, certains États d'Amérique du Sud, la Côte d'Ivoire, ont créé des commissions dites « vérité et réconciliation » ayant pour objectif de rapprocher les ennemis d'hier à travers des démarches positives et constructives, donnant une très large place aux récits, aux échanges, à l'écoute. Pourquoi donc une telle justice ? Je ne dispose que de fort peu de temps pour vous donner quelques raisons, mais je vous demanderai simplement de retenir que pour les rédacteurs du traité de Rome, il était impensable que certains faits puissent demeurer impunis. Et pour ces rédacteurs, il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux, la CPI n'intervenant qu'en complément des juridictions pénales nationales. Pourquoi une telle justice ? Parce que la justice, aussi imparfaite qu'elle soit, constitue à travers un procès équitable et si possible bien conduit, une réponse que l'on doit toujours préférer aux exécutions sommaires et aux parodies de procès. Parce qu'un procès permet d'établir des responsabilités individuelles, ce qui, pour les victimes très présentes devant la CPI, est fondamental et je puis en témoigner. L'oubli, écrivait Yankelevitch, qu'Elie Wiesel citait précisément lors du procès de Klaus Barbie à Lyon en 1997, l'oubli revient à tuer deux fois les victimes. Parce qu'un procès permet encore, c'est important, de dresser judiciairement, officiellement, un constat des actes qui ont été commis, ce qui permet aux générations à venir d'être objectivement informées de ce qui s'est produit et de ne pas se contenter de récits qui ne cessent de s'enrichir au fil des années. Parce que sur le plan juridique, et sans que l'on puisse être taxé d'interprétation extensive, il résulte de l'article 1er de la Charte des Nations Unies et de l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'un système juridique international doit garantir à chacun le droit à la liberté, à la sécurité, à ne pas être soumis à la torture, aux arrestations arbitraires, à l'incarcération. Or, comment constater de telles violations, les sanctionner, les réparer, dédommager ceux qui en ont été victimes, si ce n'est en poursuivant et en sanctionnant leurs auteurs au terme d'un procès contradictoire. Et si les juridictions nationales s'avèrent défaillantes, il faut pouvoir compter sur une cour ou des tribunaux internationaux appelés à se prononcer au nom de la communauté internationale tout entière et non pas, comme à Nuremberg et à Tokyo, au nom des seules puissances victorieuses. Parce qu'enfin, l'exemple des procès de Saddam Hussein et d'Hosni Moubarak, notamment, est patent. Une juridiction ayant plus de recul peut, même s'il est difficile de juger de loin, se prononcer avec plus d'objectivité que des juges nationaux qui se sont trouvés au cœur d'un conflit qu'ils ont vécu et qui est parfois toujours en cours. Au surplus, une telle juridiction peut disposer de personnels d'enquête très spécialisés et de meilleurs moyens d'investigation. Elle peut aussi, en cette matière, assurer une nécessaire harmonisation de la jurisprudence et créer ainsi de la sécurité juridique. Mais une juridiction pénale internationale, tribunal ou cour, doit absolument veiller à compenser le risque bien réel que constitue une justice vécue comme trop distante et par là même quelque peu désincarnée. Le risque d'une justice rendue à des milliers de kilomètres des populations concernées et coupée du contexte politique et culturel local. Elle doit compenser ces risques par une prise de connaissance approfondie de ce contexte, par une attention constante et soutenue portée aux accusés, aux témoins et aux victimes qui sont mises en présence de juges et d'un système judiciaire dont ils ignorent tout, par une conduite aussi pédagogique que possible des débats qui sont filmés en continu et visibles dans un différé de 30 minutes, et par une information et des explications sur le déroulement du procès qui soient données dans le pays où se sont déroulés les faits que l'on juge par des représentants de la Cour. Venons-en à présent à l'évaluation de cette justice si décriée. La justice pénale internationale fait l'objet de nombreuses critiques. Elles sont le plus souvent formulées mezzo voce, c'est la petite musique du scepticisme, mais elles sont aussi parfois très vives. On lui reproche de manquer d'efficacité, d'être lente, d'être coûteuse, d'être trop politique, de ne pas poursuivre ce qui devrait l'être. La CPI est au cœur de ces critiques. Dès lors qu'elle est censée être à l'avenir la seule juridiction pénale internationale, je m'attacherai donc plus particulièrement, je l'ai dit, aux reproches qui lui sont faits. Et tout d'abord, la politique est trop présente. C'est vrai, la politique est présente, elle est omniprésente et il ne saurait en être autrement. Les candidats aux fonctions de juge sont présentés par les États ayant ratifié le traité de Rome. Ces candidats doivent faire campagne et ils sont élus par les représentants de ces mêmes États membres, ce qui, fort heureusement, une fois élus, ne les empêche pas d'exercer leurs fonctions en pleine indépendance. L'action de la Cour, et en premier lieu celle du procureur, est totalement dépendante de la coopération que les États veulent bien lui apporter. Or, cette coopération est variable. Le double langage est fréquent. Et rappelons-le, seuls 124 États ont ratifié le traité de Rome. Quelques États qui comptent, tels que les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, Israël et la majeure partie des pays du Moyen-Orient s'y refusant. Il est dès lors évident que les poursuites, eu égard aux événements qui se déroulent sur notre planète, présentent un caractère sélectif que l'on ne peut que déplorer. Politique. Les États qui demandent à la Cour de se saisir d'une affaire peuvent être tentés de l'instrumentaliser en ne lui dénonçant que des adversaires politiques, souvent de moyenne importance, dont on peut parfois penser qu'ils souhaitent se débarrasser, et en ignorant superbement les faits de même nature commis dans leur propre rang. Le risque existe, il faut en avoir conscience, et c'est regrettable. Mais si certains crimes ou certaines personnes ne sont pas poursuivis, est-il pour autant préférable de n'en juger aucun ? L'article 16 du statut donne au Conseil de sécurité des Nations Unies la possibilité d'interdire l'engagement d'une enquête ou de poursuite, ou de suspendre une enquête ou des poursuites en cours pendant une période de 12 mois s'il fait en ce sens une demande fondée sur le chapitre 7 de la Charte. Cette disposition très politique n'a jusqu'ici jamais été mise en œuvre, mais des États africains en ont fait la demande. La saisine de la Cour, je l'ai évoqué tout à l'heure, par le Conseil de sécurité, relève d'une décision éminemment politique et peut se trouver contrecarrée par le veto qu'oppose l'un de ses membres. L'exemple syrien et la position de la Fédération de Russie sur ce point, et vraisemblablement celle de la Chine, en est un parfait exemple. Enfin, le temps politique et le temps judiciaire coïncident rarement. Et les poursuites engagées contre des hommes politiques kényans en raison de crimes commis en 2008-2009 dans un contexte post-électoral singulièrement brutal se sont heurtées aux pires difficultés. La défection tardive de nombreux témoins, la disparition de certains témoins a en effet conduit le procureur à retirer, faute de preuves suffisantes, les charges qu'il avait réunies contre les deux accusés concernés qui, il est vrai, étaient entre-temps devenus président et vice-président de leur pays. Enfin, et vous le constatez souvent, la menace de saisir la CPI revient avec constance dans le discours politique. Et cela lorsque la diplomatie, peut-être, et parfois l'action militaire, sans doute, sont dans une impasse. On semble alors reconnaître à cette juridiction, avec laquelle on coopère si modérément, des vertus dissuasives auxquelles celui qui demande sa saisine ne croit certainement pas toujours. La Cour est inefficace. La Cour a effectivement donné cette impression durant ses premières années d'activité. Il lui fallait se loger, s'organiser, se doter de textes venant expliciter les textes fondateurs adoptés lors de la conférence de Rome et se mettre en ordre de marche. Par ailleurs, apprendre à travailler ensemble et à juger des individus à des personnes, pas toutes juristes, venant de 18 pays différents et de systèmes juridiques fort différents, n'est pas chose aisée. Et cette remarque est d'ailleurs valable pour l'ensemble des services de la Cour. La situation s'est considérablement améliorée avec l'arrivée à la Cour de juges beaucoup plus professionnels et la mise en œuvre d'échanges permettant aux juges de se doter enfin de pratiques professionnelles communes. Le nombre des affaires jugées ou en cours de jugement et la diversification des contentieux qui en résultent, contentieux des réparations pour les victimes, de l'exécution des peines, des réductions de peines, d'indemnisation pour acquittement, en témoignent. Mais beaucoup plus important encore, il faut avoir conscience que la Cour ne dispose pas de forces de police et de gendarmerie. Elle ne peut compter, je viens de le dire, que sur la coopération des États pour mettre à exécution les mandats d'arrêt qu'elle délivre. Or, les États sont souvent très réticents à cet égard. Il a fallu plus de 10 ans pour obtenir le transfert à La Haye d'un ressortissant ougandais, membre de l'armée de résistance du Seigneur, qui est actuellement en cours de jugement. Et il en a été de même pour le responsable présumé de nombreux crimes commis en Ituri et au Kivu, au nord-est de la République démocratique du Congo. L'intéressé est actuellement en cours de jugement. Par ailleurs, comme vous le savez, certains États font délibérément obstacle à l'exécution des mandats d'arrêt délivrés contre l'actuel président du Soudan et son ancien ministre de l'Intérieur. Inefficace, mais aussi trop lente. Même si là encore les délais paraissent se réduire, c'est l'un des principaux griefs faits à la Cour et à la justice pénale internationale en général. Et il est fondé. La situation doit impérativement s'améliorer, mais il existe des explications qui ne sont pas dénuées de portée. À la différence du TPY, appelé à connaître de faits complexes, mais qui avaient tous été commis dans une même vaste zone géographique, ce qui a rapidement permis d'opérer des rapprochements, la CPI connaît de situations variées, nécessitant des analyses très fines, pour s'imprégner du contexte propre à chacun des pays concernés par les poursuites en cours. Contexte politique, historique, géographique, démographique, anthropologique. Cette immersion dans un monde inconnu prend du temps et ne pas se livrer à cet exercice pourrait conduire à de grossières erreurs d'appréciation. Les enquêtes du procureur se déroulent dans des pays souvent toujours en guerre ou en situation de grande insécurité. Les investigations sont donc longues, difficiles et doivent même parfois être provisoirement suspendues. Dans des pays en guerre, les preuves documentaires sont difficiles à réunir et elles sont d'ailleurs le plus souvent inexistantes. La recherche de témoins fiables et ne parlant pas la langue de l'enquêteur est consommatrice de temps. Il s'impose fréquemment de mettre en œuvre des mesures de protection au profit de ces témoins en raison des risques qu'ils prennent. Tout cela prend du temps. Les procédures mises en œuvre sont un subtil mélange de common law et de civil law. Le premier de ces deux systèmes juridiques est cependant omniprésent. Et ces techniques d'interrogatoire de témoins, puis de contre-interrogatoire, ne sont pas facteurs de célérité. Par ailleurs, l'interprétation et la mise en œuvre de textes élaborés lors d'une conférence diplomatique, avec la part de compromis que cela implique, n'est pas non plus chose aisée, a fortiori de la part de juges ayant des formations et des cultures différentes. Il s'impose donc, sans vouloir à tout prix mettre en concurrence ces deux grands systèmes juridiques, rechercher au-delà de la common law omniprésente et source de lenteur, les mécanismes procéduraux qui permettront de gagner du temps, et il en existe. Le respect du contradictoire est une règle cardinale. Or, les parties, procureurs, défense, représentants des victimes déposent de nombreuses requêtes ou conclusions, soulevant les questions juridiques les plus variées. Exception d'irrecevabilité, de nullité. Le contentieux préalable au jugement lui-même est donc important. À titre d'exemple, avant de rendre son jugement, la chambre de jugement que je présidais a rendu 409 décisions écrites et 168 décisions orales lues à l'audience, certaines étant parfois fort longues. Le déroulement des audiences est inéluctablement long, car la preuve, qu'elle soit à charge ou à décharge, résulte essentiellement de dépositions de témoins venus de fort loin, qui doivent obtenir les documents administratifs nécessaires. Et une fois arrivés à La Haye, se familiariser avec des lieux et une salle d'audience qui est à des années-lumière de leur environnement quotidien. Il s'agit de personnes souvent très simples, qu'il s'impose de rassurer et de mettre en confiance, car il va leur être demandé de refaire le récit de scènes qu'elles avaient le plus souvent tenté d'oublier. Pour le président d'audience, il est indispensable de veiller à tout instant à ce que l'atmosphère de la salle d'audience soit sereine et favorise un travail utile. Si vous ajoutez les temps de traduction de documents écrits et la nécessité d'une interprétation parfois à double détente, vous comprendrez que du temps s'écoule. Pour autant, il faut savoir organiser les débats et les canaliser, ce qu'un juge français de civil law sait faire et peut imposer, mais au risque de surprendre considérablement ses collègues common lawyers. Il faut discuter avec les parties du nombre de témoins qu'elles entendent citer et, le cas échéant, le réduire en s'en expliquant. Il faut évoquer avec les parties les heures de temps de parole qu'elles exigent et savoir le diminuer éventuellement de moitié. Élémentaire, me direz-vous, non, ce ne l'est pas du tout pour un juge anglo-saxon. Autre grief, la Cour est trop africaine. Comment peut-on parler de Cour pénale universelle alors que les affaires jugées ou en cours de jugement ne concernent, dit-on, que le continent africain ? Tel est effectivement le cas, mais il faut nuancer cette critique et rappeler que, contrepartie de la politique d'autosaisine adoptée par le premier procureur, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire et le Mali ont eux-mêmes demandé à la Cour de se saisir d'affaires qu'ils ne se sentaient pas en mesure de juger, ce qui leur permettait aussi, je l'ai dit, de mettre éventuellement en difficulté des opposants ou des rebelles. De même, les faits commis au Darfour et en Libye ont été dénoncés à la Cour par le Conseil de sécurité. S'agissant de l'Afrique, seule l'affaire dite du Kenya relevait d'une enquête effectuée d'initiative par le procureur. Pour autant, cette critique est fondée et la réaction très vive, mais d'une bonne foi toute relative, de nombreux États africains ayant, il y a déjà 3 ans, manifesté le souhait de se retirer en bloc de la CPI et demandé au Conseil de sécurité de faire jouer l'article 16 du statut et de suspendre des poursuites en cours, doit être prise en considération. Et il s'impose que le procureur diversifie ses champs d'activité. Notons que le Burundi, qui fait actuellement l'objet d'un examen préliminaire de la part du procureur, vient de décider de se retirer de la Cour, ce qui ne met pour autant pas ses dirigeants à l'abri de poursuites, si c'est le Conseil de sécurité qui le décidait. Plus grave, même si les raisons invoquées, de prétendues difficultés d'interprétation, sont bien équivoques, est la décision de retrait prise fin octobre par l'Afrique du Sud, qui avait été un des piliers de la création de la Cour. Nous pourrons y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Et par la Gambie, État dont est originaire l'actuel procureur. Le changement de chef d'État, qui, sauf erreur de ma part, était en place depuis près de 22 ans, va peut-être changer les choses. Le Kenya semble hésiter à se maintenir, mais il est vrai que l'absence d'immunité au profit de chefs d'État inquiets de voir d'éventuelles poursuites se rapprocher de leur personne explique peut-être cette brutale désaffection. Il faut pour autant donc diversifier les champs géographiques d'enquête. Vous noterez toutefois que lorsque la procureure diversifie ses champs d'enquête, elle suscite d'autres critiques. Tel est le cas de la Russie, furieuse que l'on enquête en Géorgie et en Ukraine, et dont le retrait de signature récent, dès lors qu'elle n'a jamais ratifié le traité de Rome, relève essentiellement du coup de menton. Tel est le cas également des États-Unis, qui sont restés fort passifs sur certains comportements de leurs forces il y a une dizaine d'années en Afghanistan ou dans des centres de détention situés en Europe et qui s'étonnent que la Cour manifeste l'intention de s'y intéresser. Grief, une politique pénale peu lisible et des choix contestables. Les procureurs des juridictions pénales internationales défèrent-ils toujours les véritables responsables ? La question est récurrente et il s'impose de définir des priorités quant aux personnes. Il faut viser haut, quitte à laisser aux juridictions nationales le soin de juger les exécutants. Il faut viser haut quant aux faits, aller à l'essentiel et ne pas vouloir retenir tous les faits commis. Tel n'a pas été le cas pour les premières affaires dont a eu à connaître la Cour, toutes soumises par les États eux-mêmes, comme s'il s'était agi de montrer très vite que cette Cour était opérationnelle et qu'elle fonctionnait sans délai. Depuis, le bureau du procureur communique beaucoup plus et mieux sur la politique pénale qu'il entend conduire, sur ses priorités et sur ses méthodes. Dernier grief, les juges. Une évaluation objective doit conduire à s'interroger sur la qualité des juges et sur leur aptitude à connaître des crimes les plus graves. Les conditions de nomination sont contraignantes. Il faut en effet respecter une répartition équitable entre continents, entre grands systèmes juridiques et entre sexes. Par ailleurs, si le statut a prévu que 10 des 18 juges doivent avoir une compétence reconnue en droit et en procédure pénale et avoir l'expérience du procès pénal en qualité de juge, de procureur ou d'avocat, les 8 autres juges doivent seulement avoir une compétence reconnue en droit international, tel le droit humanitaire et les droits de l'homme, ainsi qu'une grande expérience dans une profession juridique présentant un intérêt pour la Cour. Formule assez vague. Il s'agira le plus souvent donc de diplomates ou de professeurs de droit. Certains se coulent très vite dans leurs nouvelles fonctions. D'autres rencontrent de réelles difficultés. Et il leur faut oublier au plus vite d'où ils viennent, quitter notamment la toge de l'universitaire et revêtir celle d'un juge. S'agissant des juges, il faut être très clair. Il faut que les juges des juridictions pénales internationales témoignent d'emblée d'un engagement total, ne s'en remettent pas à leurs assistants, travaillent en équipe et donnent l'exemple. Être juge dans une juridiction pénale internationale n'est pas le couronnement d'une vie professionnelle. C'est un recommencement, c'est une remise en cause, c'est un nouveau départ, imposant à celui qui accède à ses fonctions, même s'il occupait dans son pays une place importante dans la hiérarchie judiciaire, de se placer dans la situation de quelqu'un qui découvre un monde nouveau, qui a tout à apprendre et qui doit, avec modestie et détermination, faire à nouveau ses preuves. À cet égard, le recrutement qui intervient dans une proportion de 6 juges tous les 3 ans s'est incontestablement amélioré, mais c'est là que se trouve, si l'on y prend garde, l'un des plus grands facteurs de fragilité de la Cour. Très rapidement, quelques évolutions. La Cour est jeune, elle n'est pas encore stabilisée. Notons que parmi les éventuelles extensions de son champ d'intervention figure le crime d'agression. Lors des débats de Rome en 1998, certains États avaient demandé que la Cour puisse connaître également du crime d'agression, ce que la majorité des participants à la conférence de Rome avait sagement repoussé, laissant le soin à un groupe de travail spécial d'examiner cette question. À Kampala, lors d'une conférence de révision du statut en 2010, la Cour a vu entrer dans son champ de compétence le crime d'agression. Il figure désormais à l'article 8 bis du statut. Il est défini avec une extrême précision. Les conditions d'exercice des poursuites sont très encadrées, qu'il s'agisse de poursuites exercées sur renvoi d'un État parti au traité de Rome ou à l'initiative du procureur ou sur saisine du Conseil de sécurité. Dans les 2 premiers cas, à l'initiative d'un État parti ou du procureur, le procureur doit d'abord s'assurer auprès du Conseil de sécurité que ce dernier a constaté l'existence d'un acte d'agression. Le Conseil de sécurité dispose d'un délai de 6 mois pour se prononcer. En cas d'absence de réponse, le procureur est libre de conduire une enquête avec l'accord d'une des chambres de la Cour, la chambre préliminaire. La Cour ne pourra exercer cette nouvelle compétence qu'à compter du 26 juin 2017, mais elle ne sera effective que si une majorité des 2/3 des États partis en décide ainsi. Je n'ai pas connaissance d'une date de réunion d'une nouvelle assemblée chargée de réunir cette majorité des 2/3. Certains se sont posé la question de savoir si les actes de terrorisme commis à grande échelle devaient relever eux aussi de la compétence de la CPI. En 1998, les rédacteurs du traité ont exclu expressément le terrorisme du champ de compétence de la Cour et il ne semble pas que soit envisagée à court terme une évolution sur ce point. Il est vrai, vous le savez, qu'il n'existe aucune définition commune du crime de terrorisme sur le plan international comme sur le plan européen. La seule juridiction pénale internationale qui connaît actuellement, dans des conditions bien spécifiques, d'actes de terrorisme est, je l'ai indiqué tout à l'heure, le tribunal spécial pour le Liban. La question peut toutefois se poser de savoir si le terrorisme, en particulier dans sa dimension internationale, pourrait être considéré comme une nouvelle forme de crime contre l'humanité et à ce titre relever éventuellement de la compétence de la CPI, ce qui reviendrait à lui permettre de connaître en quelque sorte par la bande de faits de terrorisme. Eu égard à la position adoptée jusqu'ici sur cette question par l'Assemblée des États partis, cela paraît en l'état peu probable. Les crimes écologiques. Le 15 septembre 2016, la procureure de la Cour pénale internationale a rendu public un document de politique pénale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires. Certains ont pu en déduire que la Cour pénale allait désormais s'intéresser aux crimes de grande envergure commis contre l'environnement. En réalité, la note du procureur insiste sur l'impact de certains crimes qui, selon elle, peut s'apprécier, entre autres, à la lumière de la vulnérabilité accrue des victimes, de la terreur répandue parmi la population, ou des ravages qu'ils causent sur le plan social, économique, écologique, au sein des communautés concernées. Dans ce contexte, poursuit la note du procureur, son bureau s'intéressera particulièrement aux crimes visés au statut de Rome, impliquant ou entraînant, entre autres, des ravages écologiques, l'exploitation illicite de ressources naturelles ou l'expropriation illicite de terrains. Et les crimes en question figurent, dès à présent, à l'article 8 du statut. Il ne s'agit pas obligatoirement d'hypothèses d'école quand on voit la façon dont les ressources naturelles du nord-est de la République du Congo sont parfois exploitées par d'autres que la République démocratique du Congo. Il y a des voisins gourmands dans ce secteur. Enfin, une chose est à prendre en considération, c'est l'apparition, malgré l'affirmation que la Cour pénale internationale serait la seule juridiction pénale internationale universelle et permanente, c'est l'apparition de nouvelles juridictions. Tel était le cas en 2014 quand on a envisagé la création d'un tribunal en Ukraine chargé de juger les crimes de guerre et les crimes contre la sûreté de l'aviation civile qui avaient été commis, mais ce tribunal n'a pas vu le jour. En revanche, plus préoccupant, la République centrafricaine, qui a pourtant saisi à deux reprises la Cour pénale internationale, s'est dotée en juin 2015 d'une Cour pénale spéciale qui est en cours de constitution, composée pour partie de juges internationaux et compétente pour juger les violations graves du droit international humanitaire commises en Centrafrique. Cette création s'inscrit sans doute dans l'attitude de défiance à l'égard de la CPI que manifestent certains États africains. Sans doute répond-elle aussi au souci de voir juger plus rapidement les auteurs de ces faits en ne recourant qu'au système procédural de civil law. Sans doute s'inscrit-elle aussi, cette création, dans la poursuite de l'exemple donné par le tribunal qui, au Sénégal, les chambres africaines extraordinaires ont récemment jugé Hissène Habré dans des délais brefs, mais pour des faits qui n'entraient pas dans le champ de compétences rationnées temporis de la CPI. Il demeure que, s'agissant de la Centrafrique, le risque de confusion et de chevauchement entre les compétences internes et les compétences de la CPI risque de poser problème. Notons aussi que l'Union africaine envisage de créer, au sein de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, une section du droit international pénal. Je termine avec quelques mots de conclusion très brefs. La justice pénale internationale est encore très jeune. Elle n'est pas parfaite, mais elle existe. Et lorsque l'on se rend sur les lieux où se sont déroulés les faits que l'on juge, ce que j'ai fait lors d'un transport judiciaire au nord-est de la République démocratique du Congo, on constate qu'elle est attendue, qu'elle est reconnue et qu'elle est respectée. Elle ne relève pas d'automatisme. Le suspect qui est interpellé et conduit à la haie ne devient pas obligatoirement un accusé. Pour certains, les charges ont, dès le stade préliminaire, été jugées insuffisantes et le procureur a dû arrêter là. De la même manière, l'accusé traduit devant une chambre de jugement de la Cour n'est pas nécessairement déclaré coupable. Le hasard et l'état du dossier, comme le déroulement des débats, ont conduit la chambre que je présidais à disjoindre les poursuites exercées contre deux accusés et pour l'un d'entre eux à l'acquitter. En revanche, le second a été déclaré coupable et condamné. La justice pénale internationale doit, il est vrai, composer avec les réalités de la politique internationale, ce qui peut faire douter à très juste titre de son efficacité. Pour autant, sans méconnaître, après l'enthousiasme de ses débuts, les sentiments de déception, de frustration, voire la désillusion qu'engendre aujourd'hui son cheminement tâtonnant, il faut, je vous en conjure, savoir être patient et très patient. il faut défendre cette forme de justice inédite dont l'ambition s'inscrit dans la longue histoire de l'humanité. Et il faut se rappeler qu'à trop insister sur les difficultés, les imperfections et les échecs, on en oublie inéluctablement les réalisations. Qui, il y a une trentaine d'années, aurait imaginé que des dirigeants civils ou militaires puissent être un jour traduits devant un tribunal pénal international pour y rendre des comptes? Et c'est pourtant une réalité depuis 1993. Je vous remercie.
Je vous remercie vivement, cher confrère, pour cet exposé qui nous montre comment, après avoir pris un nouveau départ, comme vous l'avez dit, vous avez vécu votre expérience à la Cour pénale internationale. Cette expérience vécue nous a beaucoup frappé. Et je vous remercie d'en avoir établi le bilan en en montrant à la fois les forces et les faiblesses. Et je vais maintenant donner la parole à ceux d'entre vous qui souhaiteraient poser des questions à notre confrère, M. Gaudemet.
Merci, M. le Président, et merci de ce magnifique exposé où je retrouve votre immense talent de magistrat, puis aussi cette connaissance très concrète que vous avez. Nous en avons souvent parlé de l'avis du statut de Rome et de la Cour pénale internationale. Alors, je voudrais vous poser deux ordres de questions, profitant de cette grande compétence. Les unes un peu de l'ordre... Vous avez dit ce conflit entre le droit de common law et puis le principe traditionnel de la procédure pénale française sur un certain nombre de points. Et puis ensuite, plutôt sur ce caractère universel de la Cour pénale internationale et l'application du statut de Rome. Sur le premier point, j'ai cru comprendre, mais peut-être ai-je mal compris, que lors du traité de Nuremberg, pouvaient être recherchées des personnes physiques, mais aussi des personnes morales. Ce qui est assez novateur du point de vue de la juridiction pénale, et je crois que ça ne se retrouve pas dans les autres juridictions pénales internationales. Alors je voudrais savoir comment ça s'est passé, et si finalement on a instruit à l'égard de ces personnes pénales, vous nous avez cité la Gestapo, et s'il y a eu des condamnations concernant les personnes pénales. Toujours dans l'ordre de la procédure, je me suis posé la question d'une voie de recours, qui est quand même de l'essence de la juridiction pénale et qui est considérée même dans les droits nationaux, dans les différents droits nationaux, comme un principe fondamental. Qu'en est-il ? Qu'en est-il indépendamment d'une action en révision ? Est-ce qu'il y a une procédure de recours devant une formation différente ? Comment est-ce que ça se passe ? C'est une question que qui pour moi est toujours restée sans réponse et je vous remercie beaucoup de nous éclairer sur ce point. Et puis il y a cette question du principe de l'égalité des délits et des peines. Vous nous avez dit que le crime d'agression était maintenant figuré dans cette liste de la légalité des infractions. Je crois d'ailleurs qu'il est entré sur la base d'une négociation qui est postérieure au statut de Rome et à laquelle les États-Unis ont pris parti alors qu'ils n'étaient pas partis au statut de la Cour. Ils sont intervenus à ce moment-là, je voudrais bien savoir quelle a été leur position. Mais indépendamment de cela, est-ce que du point de vue de la légalité des peines, il y a un principe, une espèce d'adéquation, d'échelle des peines correspondant aux différentes infractions qui peuvent être constatées par la Cour? Puis alors, dernière série de questions, mais celle-là plutôt sur ce caractère universel que vous avez signalé. J'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce que... Je vais utiliser un terme qui n'est pas très heureux, mais est-ce que le plus efficace, ce sont finalement ces juridictions pénales spécifiques dont on voit qu'elles ont souvent existé, qu'elles correspondent à une situation politique, à une situation conflictuelle déterminée, qu'elles fonctionnent en conséquence, qu'elles sont composées en conséquence, ou est-ce que c'est véritablement la Cour pénale internationale, avec les difficultés que vous nous avez dit, à réaliser finalement ce parti d'universalité et qui est inhérent au statut de Rome ? Voilà. Quelques questions.
Je vous remercie.
Alors, je vais vous répondre dans le désordre. En ce qui concerne le principe de l'égalité, il est clairement exprimé dans l'article 23 du statut. Une personne qui a été condamnée à la Cour ne peut être punie que conformément aux dispositions du présent statut, s'agissant du crime d'agression, par exemple. C'est effectivement lors de la conférence de révision de Kampala en 2010 que le crime d'agression par voie d'amendement a été intégré et figure actuellement dans l'article 8 bis du statut. Mais dans les textes fondateurs de la Cour figure également un document important qui s'appelle les éléments des crimes et qui donne une définition extrêmement précise, ne laissant au juge que fort peu de marge de manœuvre de ce que sont les différents crimes contre l'humanité, les différents crimes de guerre, de ce qu'est le crime d'agression. Donc élément constitutif, à la fois élément matériel, élément intentionnel, tout cela est défini, j'allais dire, comme l'aurait fait un horloger. Bien. S'agissant des voies de recours, j'aurais dû également l'indiquer, parmi les 18 juges de la Cour, 5 siègent au sein d'une chambre d'appel. Ce sont des primus inter pares. Il existe donc une voie de recours devant cette chambre d'appel. Certaines décisions rendues par la chambre préliminaire ou les chambres de première instance, dites chambres de jugement, vont de droit en cas d'appel devant cette chambre d'appel, notamment en matière de détention ou sur toute question qui présente un intérêt fondamental. Sinon, et c'est une des originalités de la Cour, l'appel ne vient devant la chambre d'appel que si la chambre dont la décision est frappée d'appel autorise cet appel. Ce qui, pour le juge français que j'étais, était une très grande innovation. Il y a donc des conditions à remplir pour qu'un appel vienne devant la chambre d'appel. Et parmi ces conditions, figure notamment le fait que la solution qui vient d'être rendue, enfin la décision qui vient d'être rendue et qui est frappée d'appel, est peut-être susceptible d'avoir une importance sur le fonctionnement de la Cour telle qu'il faut que très vite la Chambre d'appel puisse unifier et harmoniser le droit. En ce qui concerne l'universalité de la Cour et sa capacité par rapport aux tribunaux ad hoc, il faut être très objectif. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a, si je puis m'exprimer ainsi, démarré lentement, mais je pense que personne ne conteste aujourd'hui qu'il a rempli l'office pour lequel il avait été créé. Le Tribunal pénal pour le Rwanda, sans doute différemment, dans un contexte radicalement différent, a également rempli la mission qu'on lui avait demandé de remplir. En l'état actuel, on peut s'interroger sur la totale capacité de la Cour pénale internationale. Et c'est pourtant le parti qui a été pris. Éviter de devoir créer, pour une situation géopolitique donnée, une nouvelle juridiction, trouver de nouveaux juges, faire en sorte que ces juges deviennent rapidement compétents, s'assurer qu'ils travaillent beaucoup. Enfin, autant de questions qui, il faut l'espérer, permettront dans le minimum de temps possible à la Cour pénale internationale de montrer qu'elle ne doit pas décevoir et qu'elle doit juger plus rapidement et dans des conditions surtout qui fassent que ces décisions soient comprises. Il faut aussi peut-être qu'elles soient reçues avec objectivité et bienveillance. Or, pour certains, il y a un esprit critique un peu systématique. Vous avez parlé des États-Unis tout à l'heure. Les États-Unis avaient signé le traité de Rome à la fin du temps imparti. C'était le président Clinton. Le président Bush, sauf erreur de ma part, Jean-David Lévite me corrigera peut-être, a repris cette signature. Et en tout cas, ils n'ont jamais ratifié. Mais ils sont très, très présents. Ils sont très présents. Pendant les audiences que je présidais, il y avait fréquemment, dans les travées du public, un ambassadeur itinérant des Nations Unies qui est, si je puis dire, dédié au fonctionnement des juridictions pénales internationales. Son nom m'échappe, mais j'ai eu l'occasion donc de le rencontrer à plusieurs reprises. Donc, faute d'avoir, ils n'ont peut-être ni signé ni ratifié, mais en revanche, ils sont très vigilants. Et s'agissant de la phrase de la procureure récente indiquant que s'agissant de l'Afghanistan et des années 2003 et suivantes, elle pourrait être amenée à enquêter sur le comportement de talibans, sur le comportement de forces de police et de sécurité afghanes et sur le comportement de militaires américains, les États-Unis ont immédiatement dit qu'ils étaient assez grands garçons pour juger eux-mêmes leurs ressortissants. Il semble, d'après les documents qu'a réuni et produit la procureure, il n'est précisément rien fait pour les comportements qui ont été commis en Afghanistan. S'agissant de Nuremberg, je vous avoue mon ignorance, je sais que l'ASS, l'ASA et la Gestapo ont été poursuivis. Je ne sais plus ou je ne sais pas si dans la décision de condamnation du 30 septembre 1946, elles ont été condamnées. En tout cas, la Cour pénale internationale ne s'intéresse pas aux personnes morales. J'ai peut-être été un peu long, pardon.
Je vous remercie et je donne la parole à Monsieur Mazot.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Et je voudrais dire au Président Cotte combien J'étais intéressé par sa communication et je voudrais l'interroger sur un cas un peu particulier parce qu'il se souvient peut-être que j'avais présidé, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les accords dits de Marcoussi qui s'étaient passés entre l'ancien président Gbagbo et le nouveau président Ouattara. Le président Gbagbo aujourd'hui est devant la Cour pénale internationale, poursuivi d'ailleurs pour les mêmes faits que son épouse. Or, son épouse, certes à la demande de la Côte d'Ivoire elle-même, n'est pas traduite devant la Cour pénale internationale. Est-ce que la Cour pénale internationale a la possibilité d'agir sur le gouvernement de Côte d'Ivoire pour juger les deux, dans la mesure où les faits reprochés sont les mêmes et qu'on risquerait d'avoir deux décisions particulièrement différentes?
Oui, tout cela paraîtrait très logique. Effectivement, à l'heure actuelle, Laurent Gbagbo est en cours de jugement avec l'un de ses collaborateurs, M. Blé Goudé, devant la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire a fait savoir d'emblée qu'elle entendait juger elle-même Mme Gbagbo. Le principe de complémentarité fait que, en théorie, la Cour pénale ne se saisit que lorsque la juridiction locale n'intervient pas. La Cour pénale internationale peut toutefois, dans certains cas, considérer que la capacité du pays local est insuffisante. Au demeurant, l'organisation juridictionnelle de la Côte d'Ivoire permettait de penser qu'elle était apte à juger correctement Mme Gbagbo. Mais vu de l'extérieur, cela fait parfaitement désordre. Vous avez raison, mais il n'y a pas de possibilité pour la CPI d'attraire d'autorité la situation de Mme Gbagbo, même si elle l'aurait voulu. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je prolonge un tout petit peu votre question. Nous sommes tout à fait confrontés aux difficultés que rencontre la Cour. Car certains disent, mais vous vous occupez de la famille Gbagbo et du clan Gbagbo, n'y a-t-il pas eu du côté du président actuel, M. Ouattara, des faits constitutifs éventuellement de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité? C'est sans doute vrai. La Cour a simplement le bureau du procureur, car la Cour ne s'auto-saisit pas. Encore faut-il être saisi. Le bureau du procureur a laissé entendre que ce serait dans un deuxième temps, éventuellement, que l'on s'intéresserait à M. Ouattara, car pour obtenir, n'ayant pas de force de police, le maximum d'informations sur la situation Gbagbo-Blégoudé, encore faut-il qu'elle puisse disposer de la coopération de l'actuel régime de Côte d'Ivoire. Tout cela montre les difficultés dans lesquelles s'exercent les fonctions de la Cour.
Merci. Madame Delsol.
Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup Bruno pour cette communication passionnante. Comme vous savez, on n'est pas forcément d'accord sur un certain nombre de points, mais comme on n'est pas dans la même discipline, c'est un peu compliqué, mais je vais profiter pour vous poser deux questions. Ce qui me gêne beaucoup ici, c'est la question de l'universalité, vous en avez parlé. Au fond, cette justice internationale est appuyée sur le fait qu'il y a une universalité humaine, et nous en sommes heureux. Et donc, le type même de crime contre l'humanité, c'est une idée du crime universel, au fond, c'est ça. De même que la justice d'un État est assise sur la communauté de culture d'une société, à savoir que les gens du Nord et les gens du Midi ont la même idée du crime les uns et les autres, sinon il n'y aurait pas de possibilité. Donc la justice est universelle ou n'est pas, soit dans un État, soit en totalité. Il devrait y avoir une universalité de la poursuite. C'est-à-dire que, imaginez un État dans lequel on dise, écoutez, pour l'instant, nous poursuivons les criminels de Bretagne parce qu'ils courent pas très vite, mais les criminels d'Auvergne, nous ne pouvons pas les poursuivre parce qu'ils courent trop vite. Quand nous aurons une police qui pourra courir vite, nous poursuivrons à ce moment-là les criminels d'Auvergne. Mais enfin, il faut quand même commencer, donc c'est déjà une justice puisque nous commençons. Mais non, ça n'est pas une justice, parce que justice est universelle ou n'est pas. Enfin, vous savez que nous ne sommes pas d'accord sur ce point, ce qui ne nous empêche pas évidemment d'avoir des conversations agréables, mais j'aimerais bien avoir votre réponse sur ce point. D'ailleurs, vous avez bien dit qu'il y a beau y avoir 124 ou 125 États qui sont parties prenantes, les plus grands n'y sont pas. Donc en fait, au fond, qu'est-ce qui reste? C'est surtout la poussière, au fond, qui est partie prenante. C'est quand même un gros problème, ce qui me fait dire que nous sommes encore dans la tradition de Nuremberg, qui est vraiment à l'origine de tout ça, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que il y a eu un tribunal pour Nuremberg, mais il n'y a jamais eu de tribunal ni pour les goulags russes, ni pour la Chine, hein, où il s'est produit. Il suffit de lire le livre Stèle, enfin, pour voir ce qui s'est produit en Chine. C'est quand même assez impressionnant. Alors, ce qui me conduit à ma deuxième question. J'aimerais savoir si on est d'accord là-dessus, car je pense qu'on est d'accord sur un certain nombre de points quand même. Et il me semble que justement la justice ou le pardon, ce devrait être dans ces cas-là, quand il s'agit de revivre ensemble, parce qu'en fait c'est ça, une question de décision de la société en question, une décision qui ne vienne pas de l'extérieur. Et là où je suis très gênée, c'est quand je vois les Occidentaux qui font des pressions énormes pour obtenir justement des procès ici ou là. J'avais eu un thésard il y a un certain nombre d'années, il y a peut-être une dizaine d'années, un type qui avait été chef de la police à Phnom Penh juste après Pol Pot. Il avait fait sa thèse avec moi justement sur la question de la justice internationale. Et sa thèse est tournée autour du pivot suivant. Dans une société qui croit dans le karma, votre justice internationale est une sottise. C'est quand même un problème. Moi, je trouve que c'est un problème, d'autant plus que, me semble-t-il, chaque société doit pouvoir décider si elle pardonne ou si elle réclame la justice. Vous avez parlé des commissions Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud ou ailleurs. Vous voyez bien qu'après le communisme, certaines sociétés de l'Est de l'Europe ont choisi le pardon et d'autres ont choisi la justice. Je crois qu'ici, nous nous trouvons dans une situation tragique, exactement comme si une famille doit décider si elle débranche un mourant ou non. Vous voyez, c'est une situation tragique, ou comme si une femme décide ou non qu'elle fait un IVG. Bon, une femme avec l'homme à côté, ça serait mieux. Bon, mais c'est une situation personnelle, et je pense que aucune instance, aucune loi n'a le droit de venir et de dire vous devez faire ça ou vous ne devez pas faire ça. J'aimerais bien avoir votre opinion sur ce sujet.
Merci Chantal. Oui, votre deuxième question renvoie d'une certaine manière à l'une des questions posées par Yves Godemet lorsqu'il s'interrogeait sur le point de savoir si en définitive des juridictions ad hoc cantonnées, si l'on peut dire, dans une zone géographique et une temporalité X n'étaient pas préférables à une cour se targuant d'universalité et de permanence. Pour avoir parlé à plusieurs reprises avec des acteurs ayant occupé des postes différents aux chambres mixtes extraordinaires du Cambodge, j'ai le sentiment que cette justice ad hoc installée au Cambodge avec des juges cambodgiens et des juges internationaux a été comprise et que les procès qui se déroulent là-bas avec la part d'imperfection liée au très grand âge des accusés sont des procès qui répondaient, en tout cas s'agissant des victimes, à un besoin de justice. De là à dire que la Cour pénale internationale soit à l'heure actuelle à remplir ce rôle, qui est un rôle de proximité, à l'évidence, non. Sauf à être en mesure de se montrer beaucoup plus qu'elle ne le fait. Alors ce sont des minuscules petites démarches, hein, j'en ai conscience. Mais quand j'évoquais tout à l'heure un transport judiciaire sur les lieux, ce fut, en ce qui me concerne et en ce qui concerne la Chambre que je présidais, mais les autres parties, car tout doit être contradictoire, une occasion unique sur un peu moins d'une semaine, à la fois de se rendre, bien sûr, sur le lieu des faits, dans les localités où habitaient les deux accusés, localité qu'il était important de visualiser tant les témoins en avaient parlé. Ce fut l'occasion de s'assurer que les témoins disaient bien la vérité ou n'avaient pas enjolivé depuis le moment où les faits s'étaient commis. Et ce fut aussi l'occasion de rencontrer les populations locales. Alors, n'idéalisons pas tout, mais à chaque descente d'hélicoptère ou de voiture, l'accueil des populations locales, des chefs locaux, les discussions que j'ai pu avoir avec eux, saisissant cette occasion pour rentrer dans les écoles, pour essayer de percevoir un peu ce qu'étaient, ma foi, les attentes de ces populations dont on était en train de juger des ressortissants qui, quelques années plus tôt, les avaient passés à coups de machette ou à coup de Kalachnikov, m'a donné le sentiment que l'on était quand même en mesure de tenter de ne pas trop désincarner la justice que l'on rend. Mais c'est du détail, c'est très peu de choses. Et je ne suis pas sûr que tous les juges soient partisans de ce type de déplacement sur les lieux. Il peut arriver pour certains de considérer que l'on est beaucoup mieux à la haie dans une salle d'audience qu'entouré de quelques forces des Nations Unies qui discrètement assurent votre protection. Le manque d'universalité, je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'est pas satisfaisant de voir que 124 États seulement, et sans doute 122 si l'Afrique du Sud, le Burundi, 121, et la Gambie partent, composent en quelque sorte le champ d'activité de la Cour pénale internationale. Et que des États aussi importants que les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël, ne sont pas partis à ce traité. C'est vrai que j'ai un peu tendance à penser, parce que ça a été ma vie pendant 6 ans, que c'est à la fois, ce n'est déjà pas si mal de tenter d'apporter des réponses à ceux qui posent des questions, mais c'est insuffisant. Je peux difficilement vous dire plus.
Merci. J'ai encore 2 orateurs. Je vous rappelle que nous avons un comité secret ensuite, et par conséquent que si nous pouvons assez brièvement terminer cet échange de vues officiel, quitte à avoir des échanges de vues personnels ensuite, ce serait pas mal. Monsieur Trichet.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez fait un exposé absolument remarquable, et je dois dire sur un sujet qui est extrêmement délicat. Je vais gagner du temps. Ma première remarque était un peu l'illustration de La Fontaine. Hein. Selon que vous serez puissants ou misérables, vous ratifierez ou pas le traité. Le fait de n'avoir ni la Russie, ni les États-Unis, ni la Chine, 3 membres sur 5 du Conseil de sécurité, et quels membres, et de ne pas avoir les quatre principales puissances du monde, si on y ajoute l'Inde, est évidemment quelque chose que vous avez déjà commenté. J'avais une seconde question, un peu particulière pour la France, mais sur les 12 pays africains que j'ai notés au cours de votre exposé, il y a 7 pays qui sont parlant français. Il y a d'anciennes colonies belges, à vrai dire, mais au total, ça fait beaucoup de parlants français, alors même que, malheureusement, nous ne représentons que le tiers, probablement, de l'Afrique subsaharienne. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui explique cela? Est-ce que c'est parce que nous avons d'anciennes colonies belges ou françaises qui sont particulièrement misérables ou pas?
Alors, en ce qui concerne les initiatives que pourrait prendre la Cour, elles sont prises par le bureau du procureur, à moins qu'il y ait une saisine venant du Conseil de sécurité. Le premier procureur était un Argentin. L'actuel procureur est une Gambienne. Et la structure du bureau du procureur, à l'heure actuelle, est fort peu française. Il y a très, très peu de Français au bureau du procureur. C'est une structure common lawyer. On y trouve des Canadiens, on y trouve des Anglais, des Australiens, des Néo-Zélandais, mais fort peu de Français. Donc, il s'avère que la situation d'un certain nombre de pays africains est suffisamment instable et il s'y passe suffisamment de choses atroces pour que des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre aient pu s'y commettre et qu'il soit nécessaire d'en rechercher les présumés coupables. Que voulais-je vous dire d'autre pour répondre à votre question? Puis sur l'absence de grands États, c'est le drame actuel de la Syrie. Soyons très clairs, la Syrie n'a ni signé ni ratifié le traité de Rome. Seule une saisine par le Conseil de sécurité pourrait permettre de s'intéresser à ce qui s'y passe et qui est épouvantable. Mais le Conseil de sécurité, c'est l'aspect politique de la Cour, est inéluctablement bloqué actuellement par la Russie et un éventuel veto et vraisemblablement par la Chine. Alors que faire? On pourrait concevoir que la Cour puisse être éventuellement saisie de faits commis en Syrie, des personnes ressortissantes d'États ayant signé et ratifié le traité. Comment identifier les intéressés? comment les interpeller, et la plupart du temps, il s'agira d'exécutants qui ont du sang sur les mains, mais ce ne sont pas forcément les exécutants qui méritent de venir devant la Cour. C'est à un niveau plus élevé que l'on conçoit une traduction devant la Cour pénale internationale. Donc, je sais qu'il y a actuellement au parquet de Paris une enquête qui est en cours, avec, au vu d'éléments d'information et de preuves, essentiellement photographiques, sur des centres de détention et de torture en Syrie. Je crois que ça porte un nom de code, César. Et cette enquête, bon, débouchera-t-elle sur des identifications permettant soit à une juridiction française, parce qu'il s'agit d'un ressortissant français, ou parce qu'il s'agit d'un ressortissant qui n'est pas français, mais qui est trouvé sur le territoire français, et qui peut, au titre de la compétence universelle, être jugé chez nous, mais ce sera le petit bout de la lorgnette. Ce n'est pas la réaction que l'on attend s'agissant de ce qui se passe en Syrie.
Je vous remercie, Monsieur Soutou.
Je vous remercie. Un point de précision, peut-être, après le remarquable, magnifique exposé de notre confrère concernant Nuremberg. On a effectivement condamné, ou je ne sais pas quel terme plus exact, décrit comme organisation criminelle, la SS. C'est-à-dire que tout membre de la SS pouvait, cas échéant, par la suite être condamné pour le fait d'avoir appartenu à la SS. La Wehrmacht n'a pas été déclarée organisation criminelle, et sauf erreur de ma part, la SA non plus. Sans ça, il aurait fallu mettre toute l'Allemagne au trou. C'est pas possible. L'origine, disons, pour l'historien, hein, point de vue pas forcément le même que celui du juriste ou du philosophe. L'origine a été relevée à l'occasion du traité de Versailles, dans un livre que je recommande, paru vers 40 ou 41, de Bertrand Jouvenel, qui était une réflexion sur toute cette période, et dans lequel il soulignait que pour la première fois au traité de Versailles, on avait une paix qui n'était pas exclusivement une paix politique, mais qui était également une paix juridique, avec deux éléments qui relevaient de l'ordre du droit, je dirais presque à l'instar du droit privé, même si c'était autre chose, les réparations. Avant, on faisait payer une indemnité de guerre, on ne disait pas que ce sont des réparations. Et bien entendu, la volonté de juger non seulement Guillaume II, mais 800 personnes derrière, chancelier en tête, c'était considérable. Comme vous l'avez fort bien dit, ça n'a pas marché, mais le principe y était. Et on peut constater que c'est l'un des aspects du traité de Versailles qui a été le plus désastreux en Allemagne pour susciter le révisionnisme, enfin la rancœur face au traité, car l'Allemagne avait perdu la guerre, mais en plus elle était condamnée sur le plan moral. C'est comme ça que ça a été interprété en Allemagne. Alors, ce qui m'amène à ma dernière question. Parce que je reste quand même à ce phénomène de confusion entre la sphère politique. Les guerres entre États ou les guerres civiles sont d'abord des faits politiques. On ne mène jamais une guerre, qu'elle soit civile ou internationale, parce qu'on a vraiment choisi de le faire, mais parce qu'on pense qu'on ne peut pas faire autrement. À tort ou à raison, peu importe. C'est pas là. Et la question se pose alors, et je terminerai là-dessus, est-ce que la mise en place d'un processus que... C'est ce que vous avez décrit, aura un effet dissuasif sur les fauteurs de troubles, ou alors, au contraire, est-ce que ça les rendra encore plus acharnés, ou est-ce que ça ne risque pas de les rendre encore plus acharnés dans la guerre civile? Est-ce qu'à un moment donné, il ne vaut mieux ne pas conserver la possibilité de dire, union et oubli, comme Louis XVIII en 1815? Voilà la question que je voulais vous poser.
De manière extrêmement modeste, je pense qu'il y a quand même un effet dissuasif. Car la manière dont le Burundi et la Gambie partent au moment où d'éventuelles poursuites se rapprochent de leurs élites et de leurs chefs d'État montre que cette cour est peut-être un sabre de bois, mais en tout cas qu'elle leur pose problème. Je ne suis pas certain que ça puisse enclencher des phénomènes de réaction massifs. De là à dire que la dissuasion soit reine, pas obligatoirement, mais je pense en tout cas que pour l'instant, dans un certain nombre d'États africains, ce n'est pas tout à fait indifférent. Et peut-être mets-je là sur un plan qui n'est pas le bon, mais les réactions qui ont entraîné les examens préliminaires qui ont actuellement lieu en Palestine montrent que cela ne fait pas plaisir à un certain nombre d'États de savoir que la Cour pénale internationale s'intéresse à ce qu'ils ont pu faire.
Merci. Bien, écoutez, ceci met un terme à cette communication. Je vous remercie infiniment de nous avoir fait bénéficier de votre expérience et de votre vécu en tant que juge pénal international. Merci infiniment.